Salam alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes amis au grec ou autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire, ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de notre vie et de notre tête qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à notre culture. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonjour à tous et bienvenue sur La Tay. On est aujourd'hui de retour que entre meufs.
Ouais, ouais, ouais.
Entre go. Mais malheureusement, Nesrine n'est pas là. On l'embrasse, on t'aime, Nesrine. On se retrouve aujourd'hui donc avec Kauter. Comment tu vas, Kauter?
On vit, on survit.
Ça, c'est ma phrase, ça.
Ouais, bah écoute, moi, c'est ma philosophie de vie.
Et Amel?
Bah écoute, on est là aussi. Hein.
Et aujourd'hui, on va parler de meufs. Ah putain, c'est gentil de me poser la question.
On posera.
Bah écoute, ça va très très bien. Ah, c'est ouais vrai qu'on me la pose jamais du coup. Ça va très bien. Aujourd'hui, on est en mars. Encore, on est dans la fin du mois de mars.
Ah, demain, on est en avril. Enfin, après-demain.
Ouais, après-demain, on est en avril. Et,
on s'en bat les couilles, non?
Bah non, parce que le 8 mars, c'était quand même la journée internationale des droits des femmes. En oui plus, en plus, il y a quelques jours, c'était la journée de la femme musulmane. Donc quel bon moment pour réaliser cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de filles, on va parler de religion, on va parler de qu'est-ce que c'est que d'être une fille maghrébine en France, qu'est-ce que c'est de grandir en tant que descendante d'immigrés ou immigrés. J'ai envie de vous demander à vous, à quel moment vous avez ressenti, enfin, du coup, j'ai commencé par toi, Kauter, à quel moment tu as ressenti que tu étais une femme maghrébine?
Une femme?
Déjà, à quel moment que t'as ressenti que t'étais une femme? T'as compris que tu étais une femme?
Quand on... En fait, je me suis pas rendu compte que j'étais une fille ou quoi, tu vois, parce que ça s'est passé jeune, mais on m'en a fait rendre compte, c'est quand ma grand-mère m'a dit « Tu sors pas comme ça. » Parce que je portais un short rose. Il était grave doux, en plus. J'avais trop la haine. Ma mère, elle venait de me l'acheter et tout, et là, elle me dit « Non, tu sors pas comme ça. »
Au Maroc ou en France?
Au Maroc.
Ok.
Et ouais, genre moi j'étais choquée. Enfin, je comprenais pas, tu vois. J'étais grave douce dedans.
T'avais quel âge?
Je devais avoir 10 ans.
Ok.
Je pense que, en général, ça se passe soit avec des remarques comme ça, soit certaines vivent des traumatismes qui font qu'elles se rendent compte que ce sont des femmes, ou alors, je sais pas, un événement dans leur vie quelconque.
Mm. Et toi, Amel?
Moi, après, pour les vêtements, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment ce problème-là parce que de base, on me l'avait interdit. Ah. Depuis le début, tout ce qui est short, robe courte et tout, j'avais pas le droit. Et vraiment, le moment où je me suis vraiment rendu compte de ma condition de femme, c'était au Maroc aussi. Et c'est quand, en fait, on a commencé à me faire des remarques dans la rue, genre.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais, quand les mecs ont commencé à me dire des machallahs dans l'oreille ou qu'on a commencé à me suivre. Ou,
ça a commencé tôt?
Très tôt pour moi. Très, très tôt. Que,
ouais. Moi aussi, ça a commencé tôt. Hein. Moi, c'était vers.
Et vous, c'est 12, parce que vos corps, ils sont développés. Enfin.
Même pas, hein.
Je veux dire,
même
moi, j'ai toujours le corps d'une gamine de 14
ans. Même pas, franchement, même pas. Genre, à 12-13 ans, j'avais pareil pas de seins, j'avais rien.
Et ah ouais,
ouais, on faisait des remarques dans la rue.
Mais après, moi, ouais, j'étais un peu plus bouboule. Du coup, j'avais un peu du derrière, quoi. Et c'est vrai qu'à 10-11 ans, déjà, ça avait commencé par même des hommes avec des cheveux blancs, par exemple. Hein, vraiment. Ouais. Avec leur canis et tout. Mais aucun respect, tu vois.
Moi, je me souviens, ouais, je m'étais fait toucher les fesses dans une foule. Je me retourne.
Putain, on commence cet épisode de manière trop sombre.
Je me retourne, je vois un mec en camis. J'étais là, oui, non, c'est pas lui, tu vois. Genre, c'est ouais pas possible. Genre, je connaissais pas grand-chose de la religion.
Ouais, ouais.
Et il a recommencé. Et là, je me rends compte que c'est vraiment lui. Et genre, j'étais choquée. Je savais pas quoi faire. Mm. En fait, j'étais juste choquée.
Mm. Ouais, tu savais pas comment réagir, quoi.
Ouais.
Et donc là, on parle d'expériences qui sont passées pour le coup au Maroc, en Algérie, enfin, du coup, au Maghreb, mais en France.
À quel moment, moi je sais que tu vois, le moment où j'ai compris que j'étais maghrébine, c'était en seconde, quand je suis arrivée dans une classe, j'ai fait une section binationale, j'ai fait une section qui s'appelle Abibac, où donc en gros on passait le bac français et le bac allemand. Et il y avait du coup beaucoup de blancs dans ma classe. Et j'étais la seule arabe de la classe, enfin il n'y avait même pas de noir dans la classe, tu vois. Dans la classe Abibac. Et en fait, il y a un mec qui s'était retourné qui m'avait dit « Ah, mais toi, t'es une arabe gentille. »
Oh, ça, faut les balayer.
Ah, mais enfin, t'es pas une arabe comme les autres, Lina, t'es une arabe gentille.
Ça aussi, on a eu l'habitude de me le dire.
Moi aussi, on me l'a dit.
T'es une arabe gentille, il y a eu quoi ? Il y a eu « Toi, t'es une fille bien, t'es pas une meuf qui traîne dehors, tu vois. » Enfin, non, mais genre ça va être même dans la communauté, tu vois, à l'intérieur de la communauté. C'est « Tu sors pas le soir ? Oh, trop bien. » Enfin, tu vois, genre,
même dans ma famille,
ça. Là, on a le choix.
Et du coup, ouais, vous, par rapport en France, est-ce qu'il y a eu des expériences qui vous ont marqué sur ça ou pas du tout?
Bah, dans ce cas, il y en a eu beaucoup. Hein.
Genre quoi?
Genre, celle qui me vient à l'esprit, là, c'est... je passais le bac, et il y avait les inscriptions et tout. Et en fait, on passait dans la classe une fiche pour confirmer notre inscription, genre qu'on a bien rendu tous les papiers. En fait, en face de... J'ai dû déjà vous raconter. En face de mon nom, prénom, il y avait marqué étrangère. Et il y a une grosse pute de ma classe, Chloé, si tu entends ce podcast, si je te retrouve, je te démonte, qui s'est esclaffé de rire et qui a dit « Oh, mais regarde, devant ton prénom, il y a écrit étrangère. » Et j'étais là « Ouais, et ?» Genre, je m'en cache pas, je suis immigrée et donc, tu vois. Et ouais, ça m'avait grave blessée parce que personne dans la classe avait réagi. Et je pense que c'est pas la remarque qui m'a le plus blessée, mais plutôt la non-réaction des gens autour. Mmh. Tu vois ? Mmh. Parce que je l'ai vraiment vécu comme une agression verbale. Comme dans tout type d'agression, c'est toujours la non-réaction des gens autour qui fait le plus mal, qui te fait perdre foi en l'humanité, carrément.
Et toi, Amel ?
Moi, en France, pour ce qui est de la femme, bah, pareil, c'était toujours en 6e, 5e, il y avait une fixette sur moi, enfin sur mon corps et tout, et je l'ai très mal vécu. Il y en a même un qui s'est permis de me toucher. Bon, là, par contre, je me suis battue avec, donc tant mieux. Mais sinon, pour ce qui est de moi, femme maghrébine, franchement, je crois que c'est arrivé vers la fac et tout, parce que du coup, j'habite dans une banlieue très, très diversifiée au niveau des origines. Et rien que dans ma classe, on était genre, il y avait toutes les origines du monde, je crois vraiment, genre Afrique, Asie, Amérique, il y avait vraiment de tout. Sauf des blancs, par exemple.
Ah ouais ?
Non, il n'y avait pas de blancs dans ma classe de S.
Ok.
Aucune, enfin, personne. Et du coup, je ressentais pas vraiment ce truc de la femme maghrébine, la femme arabe, ni rien. Genre, j'étais juste une parmi tant d'autres.
Ouais.
Et du coup, à la fac, par contre, ça a changé. Donc,
je tiens juste à préciser qu'on remarque notre différence, donc... Enfin, toi, tu l'as remarqué uniquement quand t'es arrivée dans un cercle social qui est plus blanc.
Ouais, ouais, totalement.
D'où l'importance d'avoir des talks qu'avec des personnes racisées. Parce que je pense que ça a son utilité.
Je pense qu'on se sent plus safe, en fait, quand on en parle avec des gens qui connaissent la même histoire, les mêmes expériences.
Bah, c'est pour ça qu'il y a la taille aussi, en vrai.
Oui, oui, oui.
Parfaitement. C'est pour ça qu'on avait fait la taille aussi. C'était pour se retrouver entre nous un peu, tu vois. Après, il ne faut pas s'enfermer non plus.
Non,
ça.
Non, non plus. Mais du coup, c'est à la fac, quand j'ai eu une classe beaucoup plus blanche, avec beaucoup moins de noirs et beaucoup moins d'arabes et beaucoup moins d'asiatiques. Et là, j'étais en mode, ah oui, en fait, c'est vrai que je suis une minorité, en fait. J'avais oublié ça, tu vois.
Ouais.
Et du coup, ça m'est revenu. Et là, par contre, j'ai bien vu la différence qu'il y avait.
Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment faire un podcast sur la femme maghrébine et pas parler du mot beurette ?
Ah, juste un truc à dire. C'est avec un thread de Kauter sur Twitter que je me suis rendu compte du caractère néfaste du mot.
Oh.
J'étais tombée sur un thread à elle. Et là, il y a tout qui s'est éclairé dans ma tête. J'étais en mode, ah oui, mais c'est vrai que... C'est pas un mot très cool, en fait. Parce que même moi, bah, du coup, je l'employais. Et du coup, c'est avec ton stress que j'ai arrêté.
Moi-même, je l'employais. Enfin, je veux dire, je me suis jamais considérée comme une beurette parce que j'en avais pas l'allure, tu vois.
T'es pas le cliché, en gros.
Voilà, j'étais pas le cliché. Et puis, en fait, avec Twitter, je me suis rendu compte que, on peut toutes se faire insulter de beurette, qu'on en ait l'air
ou pas.
Ou pas. Et donc le mot beurette. Là, j'avais fait un article pour Vraie Meuf.
Ouais.
Alors en fait, le terme beurette est apparu en France. C'était pendant la vague d'immigration.
C'était en fait avec quoi la première vague d'immigration?
La première c'était les Italiens, la deuxième vague c'était les Algériens.
Ok, en tout cas la première vague d'immigration de Maghrébins. On va dire ça comme ça.
C'était années 70, 80.
Ouais, voilà, c'était ça.
En gros, ouais, c'est la beurette, c'était la fille de banlieue, maghrébine, qui travaillait bien, qui était bien éduquée. Enfin, qui était bien polie, éduquée, ouais. Bien éduquée. Et qu'on devait un peu sauver de l'emprise de la méchante famille maghrébine, du méchant homme, tu vois, du daron maghrébin qui enferme sa fille, tu vois. Mm. Et c'était vraiment ce truc de, ouais, la petite beurette
en fait,
à sauver,
ouais, le mythe du white savior.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'était hyper, enfin, une manière de voir très coloniale. Et c'était limite positif, tu vois.
Ouais.
C'était
ouais.
Genre, c'est une petite beurette, c'est une petite maghrébine qui s'en sort bien, tu vois, malgré le fait que tout l'empêche.
Qui s'intègre bien.
Une
culture arriérée, tout ça, enfin, pour eux.
C'est ça.
Oui, ouais.
C'est ça.
Il y a une sorte de déshumanisation aussi de la personne. Genre,
totalement.
On se demande pas ce qu'elle
on
pense,
la paternalise.
Elle, de cette culture. Ouais, voilà.
On en veut à son père de trop la paternaliser et paradoxalement...
L'infantiliser plutôt, je dirais.
Et c'est pour ça que... Ouais. C'est pour ça aussi que jusqu'à maintenant, de toute façon, il y a toujours un blanc qui sauve la fille maghrébine dans tous les films
ouais. Femme maghrébine, femme racisée, parce que ouais. Elle n'est pas trop présente là, on en parle après, dans les films et tout.
Ouais.
Ouais. Mais il y a ça, et en fait, après, le truc a complètement viré avec l'arrivée des...
Je sais même pas comment, le pourquoi, du comment, quand...
Franchement, je pense que déjà, c'est arrivé vraiment, pour moi, je pense que c'était Zaya, tu vois. Zaya, Nabila. Enfin, Nabila, c'est encore un peu après Zaya, tu vois.
Oui,
il y a eu Zaya avant d'avoir Nabila, mais il y avait Zaya, il y avait Ayem, tu vois. Il y avait toutes ces filles qui sont arrivées.
Oh, tu rigoles.
Oui, mais avant, c'était quelque chose, tu vois.
Ayem enchantée. Vous vous souvenez pas? Il y a que moi qui regardais Secret Story.
Moi, je regardais pas Secret Story, je suis désolée.
Moi non plus. Oh my god. Bref, ceux qui m'écoutent et qui ont regardé Secret Story, vous connaissez la référence.
Et moi, je la connais puisque je connais le Vine, c'est genre. Et en fait, y a toutes ces femmes-là qui sont arrivées, qui étaient maghrébines, mais qui n'étaient pas musulmanes. Donc, du coup, pas de contraintes, on va dire, religieuses qui les empêchent d'avoir des mœurs légères, on va dire, et qui avaient des sexualités très assumées, tu vois.
Je pense pas que ce soit une excuse de pas avoir de religion, enfin, je veux dire...
Non, mais tu vois, ce truc de genre... Tu sais, il y a ce truc de genre, t'es maghrébine, t'es musulmane, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est t'es maghrébine, tu vas...
Bah, comme les maigrebeux.
Tu vas voir une blanche...
C'est les maigrebeux plutôt qu'on voit, ça.
Non, en général.
En vrai, j'ai fait un article sur... la présence de la femme maghrébine au sein du mannequinat. Et en fait, l'un des arguments marketing, c'était que la femme musulmane, enfin la femme arabe, est rattachée à l'islam. Et genre, on a l'habitude de l'instrumentaliser comme étant femme musulmane, qu'elle le soit ou pas, tu vois.
Oui.
Et c'est ça, ouais, t'es maghrébine, t'es une représentation de l'islam. Genre, tu vois,
t'es un porte-parole malgré toi.
Bah, du coup, hier, j'ai reçu une question sur Curious Cat, tu vois.
Ouais.
Du coup, j'ai supprimé Curious Cat ce matin. Parce que
c'est la question trop.
Et c'était un mec qui disait, mais Lina, on t'a pas entendu pourtant tweeter sur. On t'a pas entendu tweeter sur les attentats en Australie, alors que pourtant, t'es une influenceuse. En Nouvelle-Zélande, pardon. T'es une influenceuse et t'es musulmane, t'aurais pu dire quelque chose dessus. Alors déjà, je suis pas porte-parole de l'islam.
Comment j'aurais grave retrouvé l'adresse IP du mec.
Je suis pas porte-parole de l'islam. L'événement, il m'a vraiment affectée. J'avais pas envie d'être sur les réseaux à ce moment-là.
C'est pas un réflexe.
En plus, j'en ai parlé, tu vois. Mm. En plus. Et enfin, genre, je sais pas, j'avais pas envie d'en parler. Enfin, tu vois, il y a vachement. Et donc, je me suis dit, en fait, les gens nous voient vraiment comme des porte-parole,
oui,
tu
tous,
vois.
Tous,
que
tous.
Genre, t'es une meuf maghrébine, malgré toi, t'es musulmane, en fait, tu vois. Je sais pas comment expliquer.
En fait, c'est soit tu rejettes. Tous les principes religieux qu'on t'a inculqués.
Et tu craches dessus.
Et tu t'émancipes dans la libération sexuelle parce que...
Total.
Voilà, parce que selon certains, c'est ça, l'émancipation des femmes.
Mais plus
genre, si t'es juste entre les deux, genre tu vis ta petite vie et t'as tes vices et t'as tes vertus,
ouais.
Et t'es automatiquement le porte-parole religieux.
Tout ça pour dire que, ouais, il y a vraiment ce truc de porte-parole. Donc, quand il y a eu des Zaya, quand il y a eu des Ayam, en fait, ça a choqué. Genre, tu vois, que Zaya soit une escorte, ce qui a choqué, c'est le fait qu'elle soit maghrébine. Ça aurait été n'importe quelle autre escorte. Oui, on n'en aurait rien à faire. C'est parce que c'était une fille maghrébine. Et parce que.
Et qui s'est tapé un footballeur.
Voilà. Non, une fille maghrébine ne peut pas faire ça. Et ce qui est incroyable, parce que l'hypocrisie de la société française, c'est que Burette, c'est numéro un support sur Pornhub.
Oui, oui. Mais c'est surtout que toutes les filles qui avaient un physique qui s'apparentait à Zaya ou quoi, elles étaient directement perçues comme une Zaya, donc comme une Burette. En gros, c'était
ouais,
ça.
C'était
en fait,
ça. Il y avait quoi, et donc, c'est devenu
un raccourci qui s'est fait ouais, directement.
C'est ça. Avant, la Burette, c'était Rachida Dati.
Ouais.
Wesh.
Rachida Dati, ouais. C'était Burette. C'était ça, la Burette. C'était la fille qui a fait des bonnes études, qui a réussi et qui est intégrée. Tu vois.
Une Burette, ouais.
Et c'est passé de Rachida Dati à Zaya, tu vois. À Zaya, à Nabila, à ces filles, en fait, qui choquent parce qu'elles ne rentrent pas dans ce qu'on veut qu'elles soient, tu vois. En l'occurrence, des femmes arabes qui ferment leur gueule.
Exact, et qui baissent la tête.
Et tu vois, genre, c'était des filles qui sont dans la provocation, c'est des filles qui sont dans le buzz, et ça choquait trop, en fait. C'était pas possible, genre, on pouvait pas avoir des meufs aussi sauvages, enfin, pas sauvages, mais genre, aussi libres, tu vois, un peu.
Entre guillemets.
Ouais, enfin, libres entre guillemets, entre gros guillemets, tu vois, non, faire ça.
Puis même les blanches qui font ça, on les appelle des beurettes.
Ouais. Oui, genre, bah du coup, c'est devenu comme ça.
C'est vraiment une insulte pure et dure maintenant.
Ouais. Alors que c'est. Enfin. Si t'en parles à une génération plus ancienne de maghrébines. Enfin, même, genre, de moi, il y avait une blanche à mon taf cet été. Et genre, elle devait avoir. Bref, elle était proche de la retraite. Et genre, elle voyait une petite gamine d'origine maghrébine. Elle me dit: oh, elle est trop mignonne, la petite beurette. Et moi, j'étais là. Ah, ok.
Tu sais que mon père m'a fait la même chose, wow. Mais du coup, pour moi, genre, en gros, je lui dis: ouais, mais pour toi, c'est quoi une beurette? Il me dit: bah, c'est toi. J'étais en mode: ah, pas, quoi, hein?
Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas du tout la même vision entre les jeunes et entre les vieux, parce que le mot a complètement changé.
Oui, il m'a dit: bah, t'es une fille et t'es maghrébine.
C'est un petit pote, tu vois, genre, c'est incroyable.
C'est ça, avant, c'était une petite arabe gentille, maintenant, c'est devenu genre une meuf à chicha, quoi. Mais pourquoi? En fait, venez, on remplace tous le mot beurette par meuf à chicha. Genre, meuf à chicha, c'est bien.
Puis même chicha, tu sais, c'est mal perçu que chez nous, en vrai. Parce que au Moyen-Orient, c'est un truc tout à fait normal.
Ouais, c'est vrai, ça aussi.
Oui,
c'est vrai. Mais tu vois, enfin, genre, on peut avoir d'autres alternatives. On peut dire c'est un pot de peinture, au lieu de dire c'est une beurette, tu vois, parce qu'elle se maquille
trop.
Mais
c'est comme certains mots problématiques envers la communauté noire, c'est trop commun pour les hommes, femmes blancs de 40-50 ans, tu vois.
Ouais, non, mais pour les maghrébins. Oui, mais tu vois, genre, je pense que pour les jeunes, il faut commencer à changer
un peu. Bien sûr, mais après, on n'est pas les darons de tout le monde, tu vois.
Oui, mais si, tu vois, il faut bien que ça commence quelque part, en fait.
Ah, je suis d'accord.
En France, quand tu grandis et que t'es une femme maghrébine, t'as zéro modèle.
Très exactement.
T'as zéro modèle quand t'es un mec. T'as tous les rappeurs et tous les footballeurs, au moins. Et t'as certains comédiens aussi.
Ils vont dire, ouais, non, les femmes du prophète.
Et
ils vont dire ça comme modèle.
Non, mais je veux dire,
pas musulman, tu
vois. Oui, mais quand t'es jeune, ouais, tes modèles, tu vois, c'est des super-héros, c'est des chanteurs, c'est des.
Là, la seule
c'est des dessins animés, tu vois.
La seule meuf rebeu qui s'est fait une place dans l'opinion publique, là, à notre ère, c'est Nabila.
Ouais.
Et autant avant, bon, moi, je tolérais. J'étais pas trop dans son délire, autant maintenant.
On connaît pas de grande auteur maghrébine, on connaît pas de grande scientifique maghrébine. Genre, il y a même pas de, tu vois, Jasmine à la limite.
Jasmine, elle a fait quoi?
Ouais, c'est ça, c'est une princesse. Ouais, mais tu vois, mais genre, même dans les princesses Disney, tu vois, il y a quasiment rien.
Mais ouais, voilà, c'est.
En soi, elles sont toutes un petit peu inutiles à part les dernières.
Moi, la seule personne.
Mais je veux dire, dans Aladdin, le héros premier, c'est Aladdin.
Ah oui, bah ouais.
Pas l'autre là, comment ça s'appelle?
Jasmine.
Ok.
Tu vois, moi le seul. Enfin, ouais, moi genre tous les modèles que j'ai eu, on a. Soit c'était des mecs.
Pareil, voilà.
Soit c'était des filles, mais pas maghrébines, tu vois.
Moi j'en ai jamais eu des modèles dans la mode.
Étant
petite, j'en ai jamais.
Pas des. Ouais, mais genre, tu sais, juste des personnes genre.
Non, mais je veux dire,
t'es vraiment fan du travail ou
bah,
tu vois.
Elle est animée.
Ouais,
et encore, Et encore, c'est parce qu'à mon. Genre, je trouve qu'il y a une ressemblance entre nous physique, tu vois.
Et donc ouais, il y a un vrai problème de représentation. Dans la mode, dans le cinéma, dans la culture,
dans toute la culture, dans
la science.
On est effacé au max parce que je suis sûre qu'il y a des noms en vrai, mais on ne connaît pas.
Même dans les pubs, on voit parfois un Renoir ou une Renoir, parfois une Tismé ou un Tismé, parfois une Blanche, un Asiate. Mais le robot, tu le vois pas. Ouais. Et ça, quand j'en parle, on me dit « Oh, arrête, tu te victimises tout. » Mais cousin, en fait, si je le remarque, mais si je le remarque, en fait, c'est que c'est dérangeant.
Ouais. Et parce que je pense qu'il doit y avoir de la demande, ouais, en fait.
Mais on ne se fait pas entendre assez, tu vois, on ne demande pas assez, genre. Et en fait, en France, il y a deux types de représentations maghrébines. T'as la meuf voilée, celle qui fait la une
de tous les magazines.
Politiques. Le voile. Cet islam qu'on cache, tu vois, ou pas.
L'islam qu'on cache.
Non, mais tu sais, c'est...
L'outil politique.
Tu vois.
L'islam politique.
Ôter ce voile qu'on ne saurait voir, tu vois. Genre, tu sais, c'est vraiment, c'est une de journaux avec une meuf, genre, qui serait, genre, hyper bridée,
non,
enfermée, genre, par ce truc qu'il veut. Ouais, tu vois, une meuf en burqa. C'est soit ça, soit Nabila. Il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Genre, t'as pas le droit d'être au milieu. T'as pas le droit, ben, peut-être t'es musulmane et peut-être tu portes pas le voile et tu vas à l'école. Peut-être de temps en temps tu vas en soirée, mais tu bois pas d'alcool. Et peut-être... Tu vois, genre, ça, c'est impossible. Ça n'existe pas, tu vois, dans la représentation en société, ça n'existe pas. Et je pense que ça fait aussi que beaucoup de filles grandissent en se disant Mais moi, je suis qui? Mais moi, je suis où?
Surtout que moi, ça m'a. Moi, je me suis grave perdue, tu vois. Et je pense que, ouais, c'est justement parce que, à mon époque, moi, je voyais aucune meuf rebeu, que ce soit sur les plateaux télé, dans des films, dans des...
Tu vois, une petite fille, elle va grandir, elle va voir Oprah, elle va dire, moi, je vais être Oprah plus tard, tu vois, une petite fille noire. Toi, tu dis quoi?
En fait, naturellement, tu vis dans un cocon familial qui fait que tu grandis avec une certaine culture. Et même si t'es racisée... Et que t'en as pas conscience, enfin, que tu ressens pas le besoin de t'engager, je suis sûre que t'en as conscience au fond de toi, tu vois. Mmh.
Je suis pas sûre parce que, après, là, je prends mon exemple, j'ai jamais eu ce besoin d'une modèle maghrébine qui me ressemble. Okay. C'est-à-dire que vraiment, je voyais quelqu'un ou un personnage de manga ou n'importe quoi, j'aimais bien, bah, je m'identifiais au personnage, tu vois. Okay. Et je me posais pas la question de oui, il n'existe pas, oui, c'est un mec, oui, il est blond, oui, il est brun, oui, il est noir, oui, il est. Je voyais, en fait.
C'est pour ça que je te dis.
Ça me gênait pas, c'était pas un blocage. Genre, je me disais, ouais, plus tard, je vais être comme Naruto. Et ça me dérange absolument pas. Tu vois.
Non, je pense que à l'époque, moi aussi, genre, j'en avais pas conscience, tu vois. Enfin, c'est pas que j'en avais pas conscience. C'est que ça me dérangeait pas. Genre, je voyais. Dans les princesses Disney, j'avais qu'un seul modèle, c'est la Belle, dans La Belle et la Bête. Parce qu'elle avait su voir en la Bête quelque chose que les autres ne voyaient pas, tu vois. Et c'est grave moi aujourd'hui. Mais en fait, quand je prends du recul à mon adolescence, je pense que ça m'aurait plu d'avoir pas forcément un modèle, mais juste me dire, tiens, enfin moi j'étais passionnée de mode, et me dire, tiens, il y a une Nadia... créatrice,
une meuf qui a le même background que moi qui en est arrivée là, en voilà, fait. C'est ça ce qu'on cherche, tu vois.
C'est se dire, elle l'a fait, pourquoi pas moi, tu vois.
Oui, oui.
Parce que Naruto, il est devenu Hokage, mais je suis désolée, Amel, tu pourras jamais devenir Hokage.
Bah, écoute, c'est triste, non, mais bon.
Même dans Naruto, il y a plus d'inclusivité, au moins, il y a une meuf Hokage, tu vois. C'est vraiment ce truc-là. Et je pense aussi, quand tu grandis en tant que femme maghrébine en France, t'as une double vie.
De ouf! On en parle ou pas? Ça m'a rendu schizophrène, moi.
Tu sais que mon talent en mensonge, il est à son max,
voilà. Tu deviens schizophrène, en fait. T'as la vie à l'intérieur de la maison.
Mais juste aujourd'hui, j'ai menti pour venir. C'est-à-dire que ma mère pense que je suis en cours, là.
Pour nous, en fait, le mensonge, c'est une question de survie.
C'est soit très clairement, soit tu vis
pas. Parce que soit t'es exclu socialement, mais genre quand je te dis exclu socialement, parce que moi en fait j'étais dans un environnement social où il y avait que des blancs, j'étais amie qu'avec des blanches qui sortaient en soirée et tout, donc soit t'es exclu socialement et pour une ado, bah c'est dur, soit t'es honnête, ouais, soit tu mens à ta famille et t'as le poids des péchés sur la conscience, mais je sais pas. C'est une culpabilité que tu vis. Enfin, ouais, tu vis avec une culpabilité.
Oui, c'est totalement ça. C'est, est-ce que, bon, ok, tes potes te disent, hey, Lina, on fait une petite soirée ce soir, ça dirait de venir. Tu viens d'arriver au lycée, t'as envie de sortir, t'as envie de te faire des potes. Choix 1. non, désolé les mecs, j'ai pas le droit de sortir, faut que je rentre chez moi. Tu rentres chez toi, tu regardes un manga.
Tu vois, et tu n'as pas d'amis.
Choix 2. Maman, je vais aller dormir chez maman ce soir, je peux ? Et tu vas vivre ta meilleure vie.
Ah, parce que tu oses les demander. Franchement, c'est bah, déjà juste ça là. Bah, c'est courageux.
Ah ouais ?
Ouais.
Et bah, moi, c'était ça.
Je sais déjà que c'est non, en fait, aller dormir chez les gens. Mais t'as un lit chez toi, pourquoi tu allais dormir chez
les
gens ?
Et moi, genre, je forçais, tu sais, genre, mais jusqu'à maintenant, en fait. Là, il va y avoir un event. 2 semaines avant, faut que je dise à mes parents. Ouais, une semaine avant, faut que je fasse un rappel. 30 jours avant, non, la veille, faut que j'arrange la maison. Tu vois, et le jour J, faut que je sois parfaite, tu vois. C'est comme si je demandais une augmentation à un taf, tu vois.
Exactement,
c'est comme quand demandes un, tu sais, c'est juste comme avant le conseil de classe, c'est quand tout d'un coup t'arrêtes de parler, tu vois. Moi, une semaine, genre 3 jours avant le conseil de classe, tout d'un coup t'es parfaite. C'est vraiment ça. Et jusqu'à maintenant, j'ai
fonctionné
encore ça
d'ailleurs comme comme stratégie d'être sage une semaine avant. Les profs, en plus, c'est...
mais des fois avec les parents, ça peut passer.
Certains profs, ils te rappellent, ils te font. Non, mais c'est pas parce que tu peux avoir pas aujourd'hui que j'ai oublié ce que t'as fait la semaine dernière.
Exactement. C'est vraiment des sorciers. C'est vraiment des sorciers,
oh
les profs.
Mon Dieu. J'avais fait une conférence avec un panel de dingue, des champions du monde, des managers de rappeurs, des nananas, des gens partout qui viennent. Je rentre à la maison. Mais t'es sérieuse, t'as vu l'heure qu'il est?
T'es
pourquoi tu
ça fout la haine, ça, ça
alors que genre tu viens de faire un truc de ouf, genre jamais dans ta
c'est
vie
ça,
tu
penses en plus pas ça, compte, juste, en plus d'être super dur avec leur fille la plupart du temps, j'ai l'impression ils ont aucune estime pour ce qu'on fait.
Ça, je trouve que c'est pas spécifique aux meufs,
je
tu
sais,
vois.
Mais non,
ah ouais,
là où non, on a le
dans ma famille
poids.
Ça l'est hein.
Ah ouais,
de pas avoir d'estime pour ce que tu fais.
Ouais, parce que juste je dis juste une petite
ouais,
un
vas-y, vas-y.
Désolé capteur.
En tout cas, j'essaie de me rappeler de ma phrase.
En gros, du coup, moi je fais du droit et l'été juste avant ma L1, du coup, je l'ai dit à ma famille au Maroc et tout, et il y avait mon autre cousin qui faisait du droit aussi. Du coup, je leur dis ouais, je fais du droit, et là gros blanc dans la de tout le monde, et là on me dit du droit, mais tu penses que tu vas réussir là dedans, t'es sûr, genre toi? Et j'étais en mode bon bah on verra, et ils me disent enfin les femmes ont droit en général hein, machin, bon, ok je passe. Et là il y a mon cousin genre 10 secondes après qui dit ah mais moi aussi je fais du droit. Et là
ton cousin il est au bled.
Oui, mais le changement Et franchement, je crois que ça m'a un petit peu fait mal quand même. Mais genre, waouh, tu fais du droit, mais un avocat dans la famille, mais ça va être trop bien. Et j'étais à côté là en mode, mais... Hein? Genre, quoi? Et voilà, du coup, c'est pour ça que genre, je vous disais, dans ma famille en tout cas, enfin, de mon point de vue, il y a vraiment une différence.
Non, moi non.
Si on me laisse finir.
Ouais, vas-y.
En fait, le truc, c'est que la différence avec les mecs, c'est que nous, on a ce double poids. Déjà, les parents sont grave durs avec nous. Et en plus, il y a un manque de reconnaissance. Et je pense que ce manque de reconnaissance, il m'a grave fait souffrir, parce que du coup, j'attends de la reconnaissance de quelqu'un d'autre, tu vois. Pas d'un mec. Mais genre, par rapport au projet que je peux lancer, j'attends quelque chose en retour, et je parle pas d'audience ou quoi, juste du soutien et de la reconnaissance, tu vois. Et ça va me poursuivre jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que si j'avais eu une autre éducation, ou si on avait juste éduqué mon frère et moi de la même manière, parce que ce que ma mère a laissé passer avec mon frère et ce qu'elle m'a laissé passer avec moi, il y a eu une certaine nuance, tu vois.
Ouais.
Et ouais, je pense que c'est un impact, mine de rien. Genre des petits trucs comme ça qui font que c'est un impact plus conséquent dans ta vie future.
Ah, c'est intéressant.
Parce que c'est comme quand, tu vois, tu vas voler un truc quand t'as 5 ans dans un magasin, on va dire une barre de céréales, tu vois. Ça n'a pas grande conséquence. Mais quand tu grandis et que tu as toujours ce vice en toi, bah tu vas voler, je sais pas moi, un truc plus gros et avec plus de valeur, et ça va avoir plus de conséquences. Bah là en fait c'est la même chose, c'est l'effet boule de neige. Et faudrait qu'on invite un, je sais pas, un psychanalyste ou quoi un jour.
Ouais, ce serait grave intéressant.
De ouf.
Ce serait trop intéressant. Bon. Ok, mais en fait moi c'est intéressant parce que moi en fait c'est très très différent. Genre je pense que à part tu vois ce côté sorti qui était vachement Gestapo, tu vois. À part ce côté sorti qui était hyper contrôlé jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai 20 ans, je sors pas le soir, il y a plein de choses que je fais pas. À part ce côté-là, en fait, mes parents m'ont vraiment élevée, genre, sans aucune différence, tu vois. Genre, j'ai fait genre, il y a jamais eu en mode non mais toi tu feras pas ces études là parce que t'es une meuf. Il y a jamais eu de
ouais, moi aussi j'ai une expérience différente.
Tu as enfin genre je sais pas, un truc tout bête, toi tu conduis pas parce que t'es une fille, ou toi t'es, tu vas faire ça, tu fais pas ça parce que t'es une fille, ou
à
tu
moi,
vois. Moi il y a jamais eu ça, genre vraiment il y a jamais eu tu fais pas ce sport parce que t'es une fille.
Moi bah, j'ai pas équitation, on me l'a refusé parce que apparemment ça dévirgerait.
J'ai fait oh my god, j'ai commencé avec la gymnastique, après j'ai fait de l'équitation, genre petite j'ai fait de la gymnastique.
Dès qu'ils ont su qu'on faisait des grands écarts, ma mère, elle était devenue toute blanche. Elle
ça
était en mode.
Ça n'a jamais été un problème chez moi, ça.
Grand écart, mais ça ne dévierge pas ça. Oh, c'est bon.
C'est
ça,
vrai.
C'est rien.
Ça n'a jamais
moi,
été.
Moi, on m'a interdit la boxe.
Ah ouais.
Hein
ouais. Pourquoi?
Parce que c'est genre, t'as pas les épaules pour prendre les coups. Et c'est mon frère qui m'a dit ça.
C'est nul.
Surtout que ma mère, elle était genre. Tu vois, elle était pas chaude. Genre, ça elle voulait grave me faire sur ça, tu vois. Mm-hmm. Mais au moins, elle allait
me
laisser.
Moi, au contraire, moi, mes parents, ils m'avaient grave poussé à faire genre des sports de combat, à marche. Enfin, moi, j'ai fait du karaté quand j'étais.
Mais surtout
petite.
Que ma mère, vu que j'ai failli me battre avec une daronne.
Comme d'art, les histoires. On va faire une chronique, les histoires de Camtar.
Quelque part, entre l'Espagne et le Maroc, j'ai failli me battre avec une daronne parce qu'elle avait insulté ma mère. Mm-hmm. Ma mère, ce jour-là, elle m'a dit tu voudrais pas faire du karaté ou je sais pas. Mes cousines, t'étais où quand je voulais faire de la boxe et que mon frère voulait pas que j'en fasse?
Ah non, moi, il y a pas du tout eu ça. Tu vois, moi, il y a toujours eu ce truc de genre débrouille-toi, tu fais les papiers, tu fais trucs, tu vois. Genre, mon père.
Ah, les papiers, côté, oui, bah. Ouais.
Vois, exemple, ah, le côté administratif, c'est moi qui m'en occupe, très clairement.
Ouais, mais tu vois, genre, par exemple, dans le bateau, quand il faut une fille. Enfin, tu vois, genre, l'endroit où il y a la police, là où il y a que des gars, genre, quand il. Mon père, vas-y, va faire les papiers. Je retrouve là au milieu. On est tous les darons. Et genre, t'as ma mère qui fait, wesh, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et ouais, non, mon père, il a pas du tout ce truc là de tu vois t'es la mini chef de famille.
Je pense que leur mentalité elle est très paradoxale.
Ouais.
Parce qu'ils vivent
au max.
Eux aussi avec une double culture, tu
c'est
vois.
C'est ça.
Alors que nous on a grandi avec et eux ils vivent avec et c'est différent.
Ouais. C'est ça, c'est que ils s'adaptent pas de la même manière. Enfin, moi je me suis rendu compte
il y a des choses que eux trouvent normales et que nous on va se dire bah c'est bizarre, il m'a
et l'inverse,
ça, mais pas ça.
Et l'inverse
oui, et vice versa.
Et en fait moi je me suis vraiment rendu compte que genre mes parents et moi en fait je me suis un exemple de genre la manière dont tes parents et toi peuvent avoir vraiment une manière de penser différente. J'étais partie à Berlin pendant 3 mois, j'ai vécu 3 mois toute seule dans une famille, tu vois, quand j'étais en seconde. Et en fait pendant les 3 mois, mes parents sont venus, tu vois, un week-end pour passer le week-end avec moi. Donc je passe le week-end avec eux et je me souviens c'était un dimanche, le matin on était partis dans un parc et après j'ai dit à ma mère ok bah vas-y moi je vais aller manger avec mes copines. Et eux ils allaient rentrer, tu vois. Et elle me dit, donc je lui dis, bon, bah, je leur fais la bise, tout ça, nanan, au revoir, à bientôt, tout ça. Après, elle me fait, attends, tu vas prendre le métro toute seule là? Tu vas aller manger toute seule là? Mais Lina, tu vas te perdre! Tu sais pas, maman, je parle très bien allemand, je vis ici depuis 1 mois et demi, je suis à l'école là, le métro, je le prends tout le temps, je le connais par cœur, tu vois.
C'est
et en
incroyable.
Fait, et en fait, c'est trop drôle, mais tu vois, comme elle, en fait, elle était dans ce truc où elle était dans un pays étranger, où elle captait rien à ce que
en
les
fait,
gens
je pense
racontent.
Que c'est vraiment parce qu'ils s'inquiètent pour
elle. Ouais,
aussi,
en fait, elle s'était projetée, elle s'est dit, mais attends, wesh, comment elle va faire pour prendre
pas
le métro,
faire,
tu
peux
vois.
Pas le faire non plus.
Et c'est ça, et je pense que nos parents ont vachement ça, tu vois. Mais après. Un dernier truc, et je pense qu'on finira là. On a beaucoup parlé des parents, on a beaucoup parlé de la famille, mais par rapport au regard des autres, est-ce que. Moi, je sais que tu vois, par exemple, au lycée notamment, moi, mon lycée était vachement séparé, tu vois, il y avait genre vraiment les blancs qui restaient ensemble et les arabes et les noirs qui restaient ensemble.
T'étais en classe L et j'étais qu'avec les blancs.
Voilà, et en fait, tu vois, moi, je traînais avec les blancs en fait. Et tu sais, t'as vraiment ce truc de schizophrénie où en fait t'es validé par les blancs et tu te sens pas affilié genre aux jeunes de ta communauté, tu
en
vois,
fait,
tu te sens... Fin...
Moi ça a été très rapide. Okay. Au collège, j'avais le choix entre être avec des meufs rebeux ou avec les meufs bourgeoises blanches, tu vois. Mmh. Et quand je voyais que les meufs rebeux, elles étaient graves dans leurs revendications religieuses et tout, alors qu'elles avaient 12 ans, j'étais là, wow, tu vois, ça me fait peur. Genre j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec. Du coup, je me suis orientée vers les meufs blanches. Ah oui, et je me rappelle. Et en fait, ça m'a attisé le mépris des meufs rebeux. Et ce mépris-là... En fait, moi, j'ai un système de défense, c'est que quand on méprise, je méprise encore plus. Et en fait, ça a été comme ça jusqu'au lycée. Et la première fille avec qui je me suis vraiment... La première meuf rebeux avec qui je me suis vraiment liée d'amitié, c'est toi, Lina.
Oh.
et depuis... Bah, en fait, c'est grâce à toi, dans un sens où j'ai réussi à me... à me libérer du préjugé que j'avais des autres meufs rebeux. Et après, l'effet boule de neige fait que je me suis rattachée à mes origines.
Ouais, c'est ça, parce qu'on finit par, avoir des préjugés sur notre propre communauté.
Mais c'est ça. Mais parce que moi, je passais pour la beurette, en fait. Mm. Pourquoi ? Parce que j'avais des potes garçons et que je leur faisais la bise.
Ok. Ok.
T'étais pas prête, hein ?
Moi non plus. Amen.
Bah, moi, pareil, c'était au collège et en fait, c'était mes centres d'intérêt qui étaient différents. C'est-à-dire que moi, j'étais la fille qui était à fond sur les mangas,
ça,
sur
t'es
le
ma
Japon.
Cousine Emo.
Emo, de ouf. J'étais sur le... Genre, j'écoutais beaucoup de rock et tout. Mais aussi du rap. Et du coup, là, je suis rentrée dans une sorte de schizophrénie, dans le sens où je traînais beaucoup avec des blancs. Et j'ai réprimé mon côté un peu plus rap, street, entre guillemets. Mmh. Et pour essayer de me conformer à toutes leurs attentes, en fait, être comme eux.
Ouais.
Ça, du coup, j'étais dans une sorte de dissonance.
Surtout que j'ai l'impression que la communauté rock, elle est très réticente au hip-hop, tu vois.
Ah oui,
là
oui,
où l'inverse, pour le coup, n'est pas vrai, tu vois.
Non, ouais, mais vraiment, ouais. Genre, il méprise à fond.
Enfin, elle a pas mal d'influence rock, mais du coup, ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, tu dis que de par cette communauté rock, t'as fait qu'en fait, t'as rejeté tout ton côté rap, ton côté hip-hop, et en même temps, en fait, ton côté arabe, c'est ça ?
Exactement. Enfin, maghrébin. Ouais. Et du coup, il fallait genre que je parle d'une certaine manière. Si je disais wesh ou quoi, genre ah, tu parles vraiment comme eux, hein. Genre c'était des trucs comme...
Oui.
J'étais en mode comment ça comme eux. Et du coup, c'est là le ouais, mais t'étais pas comme les autres, machin. Tu vois, ouais. Il est vraiment venu de là.
Ouais, ouais. Moi aussi,
et
au bout d'un moment, je m'exprime très bien aussi.
Enfin, je m'exprime pas très très bien,
mais genre voilà. Hein.
Mais du coup, après arrivé au lycée, genre j'ai saturé. J'ai plus du tout traîné avec eux. Et c'est là que j'ai commencé à me réconcilier avec les gens de ma communauté et tout ça. Et même, genre, t'avais des filles rebeux qui venaient, qui me disaient au collège « Oui, Amel, t'es bizarre, tu parles bien et tout, tu... »
T'écoutes du rock, comment tu vas trouver un mari
Mais je crois que je l'avais dit une fois dans
le monde. Ah ouais. Oui, mais moi, ça m'avait choqué. T'écoutes du rock, tu parles bien, comment tu vas trouver un mari?
Non, mais on m'a dit...
T'écoutes du rock, comment tu vas trouver un mari, genre?
Non, c'était un bail de « Ouais, si moi, j'étais un mec... »
Ah oui, tu l'avais dit dans le premier épisode.
Si je t'avais passé mon numéro et que tu me dis après que t'écoutes du rock, mais je te demanderais de supprimer mon numéro, en fait. Et j'étais en mode « Ah bon ?» Ok, bon.
T'es pas un bon.
C'était une fille noire qui me l'avait dit, c'était une Renoir, et elle me l'a dit ça, et j'étais en mode ah, bah tant pis, dommage. Mais arrivé au lycée, j'ai commencé à changer, j'ai gardé mon côté rock, mais j'ai pu mieux assimiler les deux, en fait, mélanger les deux mondes.
Un meilleur équilibre.
Ouais, voilà. Et maintenant, j'y arrive très bien, et j'ai des amis de tous les bords, et il n'y a plus trop de jugement, et ça
c'est
va
ça
mieux.
Que, ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait, quand tu grandis. Je pense que la maturité, elle arrive avec l'âge, tu vois.
Exactement.
Et qu'au collège, on est dans un... En fait, il y a... le collège, c'est la jungle.
C'est la pire période d'une vie, je trouve.
Ouais. Pour moi, ça
l'a été. Si tu te fais harceler.
Mais du coup, là, vous partez sur des... Enfin, aujourd'hui, vous êtes assez en équilibre, en fait, avec ce truc-là. Avec le fait d'être une femme maghrébine.
J'ai peur de trop revendiquer ça, en fait.
Ok. D'être dans ce truc d'inverse, en fait.
Ouais, j'ai peur de saouler et d'être trop fermée et tout. Mais quand je vois comment certains...
Mais après, gâte, on est jeune, en fait. On a le temps encore de... Tu vois ? Là, on dit ça aujourd'hui, mais on est en... On est en constante évolution.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça. C'est en se remettant en question qu'on évolue et...
Disons que moi, ça me fait peur pour le professionnel, en fait. Je me dis, ouais... comment je vais faire plus tard, en fait, si je revendique autant que je suis. Je me dis, en plus, je suis en droit, du coup, c'est un milieu très blanc, très, très homme.
Mais du coup, ouais, essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Je pense que c'est une bonne...
Franchement, le meilleur conseil qu'on pourrait donner à une meuf maghrébine, ce serait quoi ?
Prendre du recul.
Moi, je pense qu'il ne faut pas renier aucune partie de toi. Genre, si t'aimes des trucs de blanc, kiffe des trucs de blanc. Mais si, en même temps, t'es une meuf rebeu, faut garder cette partie-là, faut garder l'aspect, faut tout prendre et tout embrasser, tu vois.
Je pense qu'il faut pas oublier qu'on a une double culture et qu'il faut trouver un équilibre, en fait, là-dedans. Mmh. Et
meuf maghrébine, mais en fait, ça vaut pour toutes les meufs racisées, toutes les personnes à double culture, tu vois.
Mais ce que je pourrais rajouter aussi, c'est sois pas trop dur envers toi-même. Essaye pas d'être le modèle familial et le modèle auprès de tes potes, parce que t'y arriveras pas et tu te perdras. Mmh. Et juste... sois toi-même et apprends à t'apprécier comme t'es.
Quelle belle conclusion. Une petite pause musicale avec un son que Amel a choisi.
Ah oui.
C'est quoi ouais. le son?
C'est le son Slay de Manel, donc ouais. une chanteuse marocaine qui est très en vogue en ce moment,
incroyable.
Qui est en train de
c'est la MIA du Maghreb.
Exactement.
En vérité, je veux pas de cette villa trop maquillée, trop loin de la réalité. Rosta sur Insta, foire un petit instant, personne saura quitter. Trop de choses qui font mal, faut pas verser de larmes quand t'es une célébrité. Quand je vois que je me fais imiter par la majorité, cet aspect qui m'en pense sans arrêt, qui n'en rien dans nos petites lives. Je vous laisse même quelques dizaines d'années, vous n'aurez jamais la même taille. J'aurais tant aimé leur faire la guerre à ces cons, mais j'aimais pas le taille. Je préfère laisser les haineux parler pendant que ma belle pour d'un mail. Nagoum Khasoura Finidar, Fark Libin, Yubin ou Finipen. باش حب من وحده قالت تصيفط ليا دابيك من سيلولير كي عملوني بحال شي كريمينال كان بان لهم بوحدي فينومين بغاو يطيحوني هرسوني سون غيزول دا باستا غير قول لهم نو نو لا لا مال ما ندير حاله نو نو لا لا بوحدي واصل امباير نو نو شوي ايا شكسوني بو سوبر شوي بالدون بسوسيتي بويكوت نو نو شتي شوي ايا اون فيريتي جو با تيت فيلا ترو ماكيي ترو لوان دا رياليتي. Rosta sur Insta, foire un petit instant, personne saura quitter. Trop de choses qui font mal, faut pas verser de larmes quand t'es une célébrité. Quand je vois que je me fais imiter par la majorité, cet aspect qui m'en pense sans arrêt, qui n'en rien dans nos petites lives. Je vous laisse même quelques dizaines d'années, vous n'aurez jamais la même taille. J'aurais tant aimé leur faire la guerre à ces cons, mais j'aimais pas le time. Je préfère laisser les haineux parler pendant que ma belle pour d'un mail. Flow Latino rap.
Alors, qu'est-ce qu'on va recommander aujourd'hui?
On va recommander, bien évidemment, des femmes aujourd'hui sur la taille.
Sisterhood.
Qui veut commencer?
Moi, si vous voulez. Alors, moi, ce que je voudrais recommander, c'est un livre qui s'intitule « Les féminismes islamiques » de Zahra Ali. Et en fait, dans son livre, elle résume plusieurs féminismes islamiques et cela dans toutes les régions, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient, et à différentes périodes. Et elle parle aussi du féminisme islamique qui commence à naître en France dû à la population qui commence à se revendiquer dans l'islam, etc. Et du coup, et surtout les femmes qui commencent à revendiquer leurs droits tout en suivant les Saintes Écritures. Et en fait, je trouvais ça grave intéressant parce que en tant que femme musulmane, les white femmes, entre guillemets, ont tendance à nous rejeter. Et quand on parle de féminisme au sein de notre communauté, les hommes, et même parfois les femmes, ont tendance aussi à nous rejeter. Et du coup, on ne sait pas sur quel pied jouer. Et là, en fait, à travers ce livre, ça m'a vraiment permis de comprendre que j'avais raison, que avoir l'étiquette de féministe et de musulmane, c'était cohérent. Et ça m'a beaucoup aidée, perso.
Très bien. Féminisme islamique de Zahra Ali.
C'est ça.
Ok. Moi, ma recommandation, c'est un collectif. Un collectif qui s'appelle Bledart. Donc, elles sont en ce moment, enfin, au moment où on enregistre, elles sont au festival Les Identifiés, organisé par Fit Bledard. Et en fait, Bledart, c'est un collectif de femmes de couleur basé à Bruxelles. Et en fait, leur goal, c'est de décoloniser les mentalités à travers l'art et la culture. Donc, elles font des conférences, elles font des DJ sets. Il y en a qui ont fait des documentaires, il y en a qui ont fait des sons. Enfin, elles sont très variées et elles avaient fait un festival. Elles avaient fait un festival cet été, en juillet, où elles avaient ramené notamment Shayfin, et elles avaient fait plein de talks. Et en fait, c'est très. C'est limite familial, tu vois, leur
ouais,
truc.
C'est ce que je ressentais.
C'est, tu vois, genre, quand elles vont faire des reçois, bah, des fois, leurs darons, ils vont venir aussi.
Ouais.
Et, ouais.
Ah, trop
c'est,
bien.
C'est vachement... c'est hyper inclusif, tu vois. Mm. C'est super inclusif. Elles avaient fait une soirée... Alors, je sais plus, c'était dans le théâtre national flamand de Belgique. Et genre, elles ont passé du Naps et du Joule et du Alonso dans le théâtre flamand, tu vois. Genre, c'était vraiment... Enfin... Elles sont vraiment dans ce truc où genre elles mélangent plein de choses, elles mélangent plein d'influences et elles essayent de faire bouger les mentalités avec ça. Donc je trouve ça important de parler d'elles et je trouve ça important de voir ce qu'elles font.
Je trouve que c'est un collectif qui est réussi dans le sens où il y a vraiment cette, une bonne vibe qui découle de ça. Et même entre elles, j'imagine que ça fait que renforcer leur amitié.
Ouais.
Et on aurait besoin de ça en France aussi.
Ouais, ouais, totalement, totalement. Donc Bledart, Bledart Collectif sur Instagram. Faut aller leur donner de la force. Et faut, si vous êtes à Bruxelles, si vous êtes en Belgique, si vous avez la possibilité de vous déplacer à leurs événements, faut pas hésiter.
Alors moi, ma recommandation, ça va être une amie très proche qui dessine depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle sait tenir un crayon entre ses mains, elle dessine. C'est sa plus grande passion dans la vie, elle est maghrébine, marocaine. Elle s'appelle Baya et son compte Instagram, c'est Boyodraws. Elle l'a lancé il y a pas longtemps. Et du coup, on donne de la force. C'est une personne très talentueuse qui mêle beaucoup de sa vie, de ses expériences, etc., dans ses dessins. Et voilà, tout simplement, une étudiante.
Ok, très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec cette fois que les mecs autour de la table. À bientôt sur la table.
La Taille est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Ziad, Kauter, Sidox, Amel, Nisrine et Théophile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'équipe de La Taille sur Instagram @lataillepodcast et vous abonner sur SoundCloud. Le thé est servi. Le thé a refroidi. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain, Inch'Allah.